Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons bientôt entrer dans le carême. Et le carême est essentiellement un état d'esprit. Non, rassurez-vous, je ne vais pas jouer les libéraux modernistes qui, sous prétexte d'esprit, laissent tomber et négligent et méprisent la pratique de la vie chrétienne. Mais il faut cependant bien nous tenir à l'écart d'un excès inverse, de ne nous attacher qu'à la pratique concrète de la vie chrétienne en oubliant l'esprit. Notre Seigneur dit à la Samaritaine que Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire que notre esprit et notre âme, notre intelligence et notre volonté sont tournés vers Dieu. Et en vérité, cela peut signifier soit la vérité de la foi, soit, très souvent dans l'Évangile, la vérité de la pratique. C'est-à-dire que Dieu veut des adorateurs en esprit tout d'abord, mais qui mettent également la pratique en accord avec l'esprit. La vie chrétienne est un sommet entre deux ravins, si l'on peut dire. Le sommet d'une montagne qui est tout en haut au milieu de deux ravins qui sont en bas. Un ravin à gauche qui ne considère que les choses concrètes, un ravin à droite qui les méprise sous prétexte de vie intérieure ou d'esprit. Nous sommes dans la vérité chrétienne. L'esprit que nous allons cultiver pendant le carême est l'esprit de Jésus-Christ. D'une part, parce que notre Seigneur est notre modèle, mais surtout parce que il est la voie, la vérité et la vie. C'est par lui qu'on va à Dieu, et toute la vie chrétienne se résume en l'union à Jésus-Christ. Enfin, plus exactement, la vie chrétienne, c'est l'union aux trois personnes divines, c'est vivre dans la société du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cela la vie chrétienne. Parce que c'est la vie de Dieu, vivre dans la sainte société de la Sainte Trinité. C'était ce à quoi Dieu avait appelé Adam et Ève. Mais à cause du péché, Dieu envoie notre Seigneur Jésus-Christ et désormais le seul qui puisse nous introduire dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est lui, le Fils de Dieu, fait homme. Comment notre Seigneur Jésus-Christ nous guide, nous introduit-il dans cette vie divine? Eh bien, par sa passion et sa mort sur la croix. Son heure qui est venue ou qui n'est pas venue, c'est l'heure de la croix. Le but de la vie de notre Seigneur, c'est le sacrifice parfait offert à son Père, sacrifice qui nous fait justement entrer dans la société du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui nous fait consacrer les choses d'ici-bas dans la mesure où elles vont nous servir à l'union à Dieu. Et par conséquent, aujourd'hui, concrètement, depuis la chute d'Adam et Ève, surtout depuis la venue de notre Seigneur, la vie chrétienne consiste à s'unir à la croix de notre Seigneur, ou plutôt à Jésus sur la croix. J'ouvre une parenthèse, mais c'est important. Ce fut d'ailleurs la vie des vrais juifs de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament se définit par rapport à notre Seigneur, le Sauveur promis, attendu. Non seulement promis et attendu, mais les Juifs vivaient dans la foi au Christ à venir. Ils vivaient dans la foi en la passion à venir. Passion et mort de notre Seigneur, qui leur avait été annoncée, par exemple, par le sacrifice d'Isaac sur le bûcher, sur le bois du bûcher, par son père Abraham, signifiant l'immolation de Jésus sur le bois de la croix par son père, Dieu le Père éternel. Il y eut d'autres figures, d'autres annonces. Certes, beaucoup de Juifs ne furent pas fidèles à cela, parce que justement, la croix rebutait leur orgueil, la croix les mettait dans l'humilité, et c'est pourquoi ils n'ont pas voulu du Christ souffrant, ils auraient voulu un Messie triomphant. Enfin, triomphant aux yeux du monde et à leur manière. Aujourd'hui, les vrais bons juifs de l'Ancien Testament qui avaient la foi sont devenus les chrétiens qui ont la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, à l'image de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, des apôtres. Quant aux autres, ils ont gardé le nom du peuple élu, mais puisqu'ils ont rejeté celui dont le peuple élu était chargé de préparer la venue, ils n'ont plus d'élus et de juifs que le nom. En réalité, ils ont trahi celui qu'ils devaient servir. Si je vous ai parlé de l'Ancien Testament, c'est pour vous montrer que la nécessité de l'union à notre Seigneur sur la croix est une nécessité universelle qui fait partie de la vie de l'homme, appelé par Dieu au ciel. Ce n'est pas quelque chose qui serait propre à une certaine catégorie d'hommes et qui par conséquent pourrait être plus ou moins facultatif. Ce qui fait que, comme je vous le disais, la vie chrétienne se ramène à l'union à notre Seigneur en croix. Cette union doit être constante, j'allais dire jour et nuit. La nuit, d'ailleurs, est un moment que le bon Dieu nous a donné pour que nous lâchions les rênes. Nous ne sommes plus maîtres de nos activités, nous ne sommes plus maîtres même de nous-mêmes, nous nous remettons totalement entre les mains de Dieu, et Dieu a fait vraiment là une merveille en créant le jour et la nuit. Il a donné le jour à l'homme, et l'homme sert Dieu dans le jour, mais il pourrait avoir la tentation de croire en une certaine toute-puissance, en une certaine maîtrise totale des choses et de la vie. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné la nuit. Et dans la nuit, l'homme est bien obligé de s'abandonner, de se mettre entre les mains de Dieu et d'attendre que Dieu le réveille le lendemain. Pour nous mener au pied de la croix, notre Seigneur nous a donné les sacrements et particulièrement le saint sacrifice de la messe. Cependant, il faut faire bien attention que la messe est un sacrement et que, comme tous les sacrements, elle a un aspect concret, qu'on pourrait dire le corps, et la vie qu'elle donne, qui est la vie de la grâce, corps et esprit, si vous voulez. Il faut faire bien attention que l'assistance à la messe a pour but de nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ souffrant sur la croix. Il faut faire bien attention que le fruit de la messe n'est pas donné automatiquement à celui qui y assiste. Sinon, il n'y aurait pas eu le mauvais larron. Sinon, Tous ceux qui ont assisté à la mort de notre Seigneur en croix, au calvaire, juifs ou romains, auraient été sauvés. Nous voyons au contraire qu'il y a des dispositions, les dispositions de la Sainte Vierge qui se mettent au pied de la croix avec les saintes femmes, avec Saint Jean, les dispositions des apôtres qui ont fui, qui vont revenir plus ou moins parce que on peut espérer que si Saint Jean est revenu au pied de la croix, les autres n'étaient certainement pas au pied de la croix, puisque l'Évangile n'en parle pas. Ils n'étaient pas loin, ils observaient malgré tout de loin. Mais observer de loin, c'est observer sans trop se mouiller. Saint Jean, la Sainte Vierge, s'engageait aux yeux du monde, aux yeux des Romains, des Juifs, des ennemis de notre Seigneur. Ils faisaient un acte public d'adhésion à notre Seigneur. Et cet acte public d'adhésion, bien entendu, était le fruit d'une adhésion intérieure. La Sainte Vierge est co-rédemptrice. Si elle est co-rédemptrice, c'est parce qu'elle a pleinement participé au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres qui étaient loin, dont on ne parle pas dans l'Évangile, ceux-là, certainement, ne se montraient pas de la même manière et par conséquent s'unissaient de plus loin au sacrifice de notre Seigneur. Je vous le disais donc, la messe ne porte du fruit qu'en fonction de nos bonnes dispositions. La messe a pour but de nous donner les dispositions. Elle a pour but de nous faire entrer dans l'union au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité est importante aussi bien pour ceux qui peuvent bénéficier de la messe que pour ceux qui ne peuvent pas en bénéficier. À ceux qui peuvent bénéficier du saint sacrifice de la messe, du sacrement qu'est ce sacrifice, alors il est nécessaire de rappeler et même de lancer cet avertissement: faites attention, ce n'est pas parce que vous participez à la messe que vous en recevez les fruits. Étant donné le drame de la nouvelle messe, d'ailleurs, on a fini par identifier la bonne messe avec le rite de Saint Pie V, et on a cru, certainement, trop souvent, qu'il suffisait d'avoir la bonne messe, celle de Saint Pie V, la messe tridentine, si vous voulez, pour avoir la messe, et qu'il suffisait d'avoir la messe pour être sauvé, enfin pour avoir les grâces. Ce serait un petit peu trop facile. La vérité, c'est que le rite est le support du sacrement, le sacrement est le moyen d'obtenir les grâces que Dieu veut donner à notre âme. Donc, premier avertissement à ceux qui ont la messe, de savoir en profiter. Et profiter de la messe, c'est s'unir à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela se fait à merveille avec le chemin de croix, par exemple, avec le chapelet, les mystères douloureux. Et puis, cette vérité est importante pour ceux qui n'ont pas la messe, parce que le moyen que Dieu a donné, le sacrement, est un moyen pour faciliter l'union à Jésus-Christ souffrant. Ce n'est pas un moyen pour limiter, au contraire. C'est un moyen pour faciliter, puisque si nous avons une messe dans la journée, eh bien, le fruit de la messe, lui, ne dure pas que le temps de la messe, il dure toute la journée. Le prêtre dit la messe le matin, c'est toute la journée qu'il vit du sacrifice du matin. Le fidèle à la messe le dimanche, c'est toute la semaine qu'il vit du sacrifice de la messe. Et beaucoup de chrétiens n'avaient même pas la messe tous les dimanches. Par exemple, Saint François d'Assise, un peu vers la fin de sa vie, voulant s'unir de beaucoup plus près à notre Seigneur Jésus-Christ, fait un carême complètement isolé. Et il se fait ermite pendant un mois, au mois de septembre, le carême de la Sainte Croix. il se fait ermite, il est complètement à part des hommes, et Dieu le récompense en imprimant les stigmates de sa passion dans le corps de saint François. On voit bien que le but, c'est l'union à notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Vous avez tous les pères du désert qui s'enfonçaient dans la solitude du désert. Cela peut paraître étonnant. J'avoue qu'en découvrant les pères du désert, je me suis étonné de savoir s'ils avaient la messe ou non. Ils l'avaient certainement de temps en temps. Ils avaient ce qu'on pourrait appeler des aumôniers. Enfin, ils ne l'avaient pas tous les jours, mais certainement pas non plus toutes les semaines. Si je vous dis cela, ce n'est évidemment pas pour déprécier le saint sacrifice de la messe, mais puisque Dieu permet que la messe ne soit plus disponible avec autant d'abondance qu'autrefois, comme Dieu ne peut vouloir que le bien, jamais le mal, comme Dieu ne peut faire qu'avancer, nous faire avancer, jamais nous faire reculer, Dieu veut toujours le progrès, et toujours de plus en plus de progrès, jamais de régression. Alors nous devons nous poser la question, pourquoi Dieu diminue-t-il la possibilité d'assister à la messe et d'y participer? Pourquoi Dieu me prive-t-il de la messe? Eh bien, parce que nous avons, nous, pauvres hommes, tendance à faire plus attention au corps qu'à l'esprit, plus attention au concret du sacrement qu'à la grâce qu'il nous donne et à l'union à notre Seigneur. Et de temps en temps, comme on sèvre un enfant, Dieu, dans sa providence, va nous sevrer pour nous faire grandir et nous enrichir. Pendant le carême qui commence, gardez bien cela à l'esprit. Vous allez prendre des résolutions, que les résolutions soient d'abord des résolutions d'union à notre Seigneur en croix. Résolution du chemin de croix, par exemple, résolution de soigner la récitation des mystères douloureux du rosaire, résolution de faire la méditation tous les jours, par exemple sur la passion de Jésus. Bien sûr, il y aura des résolutions plus concrètes, mais la Sainte Vierge à Fatima a dit que les sacrifices demandés par son Fils, c'était d'abord le devoir d'État de tous les jours, les sacrifices que la vie de tous les jours nous impose. Non pas qu'il faille croire qu'on peut s'en tenir qu'à cela. La Sainte Vierge avait la volonté de faciliter les choses pour notre pauvre monde moderne qui se décourage si vite. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela parce que si la Sainte Vierge n'insiste pas sur des sacrifices extraordinaires, alors qu'elle demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices, et cependant elle ne demande pas des sacrifices extraordinaires, c'est bien justement pour nous faire comprendre que nous devons en toute chose, même facile, chercher notre Seigneur Jésus-Christ en croix. La Sainte Vierge est certainement là un modèle pour nous, je veux dire, la Sainte Vierge au pied de la croix. Et c'est pour cela que lorsqu'elle apparaît à Fatima, elle nous transmet un message qui est un message qui insiste beaucoup sur le sacrifice pour la conversion des pécheurs, mais qui n'insiste pas sur la matérialité de ce sacrifice, mais sur l'esprit de ce sacrifice. Prière et pénitence. Même pour les enfants, vous allez demander aux enfants de faire des sacrifices, ne vous contentez pas des sacrifices pénibles, du jeûne ou des privations. Bien sûr, Mgr Lefebvre nous demandait de recommander le jeûne des 40 jours comme il se faisait jusqu'à Pie XII. C'est au moment de la Seconde Guerre mondiale que Pie XII a assoupli le jeûne et pratiquement le jeûne a disparu à partir de ce moment-là. Mgr Lefebvre nous demandait de le recommander. Mais je ne saurais vous recommander le jeûne sans d'abord vous rappeler qu'il y a un état d'esprit. On peut jeûner sans s'unir à Dieu, et on peut s'unir à Dieu sans jeûner, et on doit s'unir à Dieu en faisant les jeûnes, les sacrifices, les pénitences qui conviennent pour faciliter cette union à Dieu. Préparez bien votre carême de manière à bien en profiter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.